Guillaume Apollinaire, extrait de Hérésiarque et compagnie, Le passant de Prague. En mars 1902, je fus à Prague. J'arrivais de Dresde. D'Ebodenbach, où les douanes autrichiennes, les allures des employés de chemin de fer m'avaient montré que la raideur allemande n'existe pas dans l'empire des Habsbourg. Lorsqu'à la gare, je manquis de la consigne afin d'y déposer ma valise, l'employé me la prit, puis tirant de sa poche un billet depuis longtemps utilisé et graisseux, il le déchira en deux et m'en donna une moitié en m'invitant à la garder soigneusement. Il m'assura que, de son côté, il ferait de même pour l'autre moitié, et que les deux fragments de billets coïncidant, je prouverais ainsi être le propriétaire du bagage quand il me plairait de rentrer en sa possession. Il me salua en retirant son disgracieux képi autrichien. À la sortie de la gare, François-Joseph, après avoir congédié les faquins d'obséquiosité toute italienne qui s'offraient en un allemand incompréhensible, je m'engageais dans de vieilles rues afin de trouver un logis en rapport avec ma bourse de voyage peu riche. Selon une habitude assez inconvenante, mais très commode quand on ne connaît rien d'une ville, je me renseignais auprès de plusieurs passants. Pour mon étonnement, les cinq premiers ne comprenaient pas un mot d'allemand, mais seulement le tchèque. Le sixième, auquel je m'adressais, m'écouta, sourit et me répondit en français. « Parlez français, monsieur. Nous détestons les Allemands bien plus que ne font les Français. Oh, nous les haïssons, ces gens qui veulent nous imposer leur langue, profitent de nos industries et de notre sol, dont la fécondité produit tout, le vin, le charbon, les pierres fines et les métaux précieux, tout, sauf le sel. À Prague, on ne parle que le tchèque. Mais lorsque vous parlerez français, ceux qui sauront vous répondre le feront toujours avec joie. » Il m'indiqua un hôtel situé dans une rue dont le nom est orthographié de telle sorte qu'on le prononce « Pogitz » et prit congé en m'assurant de sa sympathie pour la France. Peu de jours avant, Paris avait été fêté le centenaire de Victor Hugo. Je pus me rendre compte que les sympathies bohémiennes manifestées à cette occasion n'étaient pas vaines. Sur les rues, de belles affiches annonçaient les traductions en tchèque des romans de Victor Hugo. Les devantures des libraires semblaient de véritables musées bibliographiques du poète. Et sur les vitrines étaient collés des extraits de journaux parisiens relatant la visite du maire de Prague et des Sokols. Je me demande encore quel était le rôle de la gymnastique en cette affaire. Le rez-de-chaussée de l'hôtel qui m'avait été indiqué était occupé par un café charmant. Au premier étage, je trouvai une vieille qui, après que j'eus débattu le prix, me mena dans une chambre étroite où étaient deux lits. Je spécifiai que j'entendais habiter seul. La femme sourit et me dit que je ferais comme bon me semblerait, qu'en tout cas je trouverais facilement une compagne au café chantant du rez-de-chaussée. Je sortis dans l'intention de me promener tant qu'il ferait jour et de dîner ensuite dans une auberge bohémienne. Selon ma coutume, je me renseignai auprès d'un passant. Il se trouva que celui-ci reconnut aussitôt mon accent et me répondit en français. « Je suis étranger comme vous, mais je connais assez Prague et ses beautés pour vous inviter à m'accompagner à travers la ville. » Je regardai l'homme. Il me parut sexagénaire, mais encore vert. Son vêtement apparent se composait d'un long manteau marron au col de loutre, d'un pantalon de drap noir assez étroit pour mouler un mollet qu'on devenait très musclé. Il était coiffé d'un large chapeau de feutre noir, comme en portent souvent les professeurs allemands. Son front était entouré d'une bandelette de soie noire. Ses chaussures de cuir mou, sans talons, étouffaient le bruit de ses pas égaux et lents comme ceux de quelqu'un qui, ayant un long chemin à parcourir, ne veut pas être fatigué en arrivant au but. Nous allions sans parler. Je détaillais le profil de mon compagnon. Le visage disparaissait presque dans la masse de la barbe, des moustaches et des cheveux démesurément longs, mais soigneusement peignés, d'une blancheur d'hermine. On voyait pourtant les lèvres épaisses et violettes, le nez proéminent, poilu et courbe. Près d'un urinoir, l'inconnu s'arrêta et me dit Pardon, monsieur. Je le suivis. Je vis que son pantalon était à pont. Et dès que nous fûmes sortis, Regardez ces anciennes maisons, dit-il. Elles conservent les signes qui les distinguaient avant qu'on ne les eût numérotées. Voici la maison à la Vierge. Celle-là est à l'aigle, et voilà la maison du chevalier. Au-dessus du portail de cette dernière, une date était gravée. Le vieillard la lut à haute voix. Oh, 1721. Où étais-je donc? Oh, bien, le 21 juin 1721, j'arrivais aux portes de Munich. Je l'écoutais, effrayé, et pensant avoir affaire à un fou. Il me regarda et sourit, découvrant des gencives édentées. Il continua. « Oui, j'arrivais aux portes de Munich. Mais il paraît que ma figure ne plut pas aux soldats du poste, car ils m'interrogèrent de façon fort indiscrète. Mes réponses ne les satisfaisant pas, ils me garrottèrent et me menèrent devant les mes inquisiteurs. Bien que ma conscience fût nette, je n'étais pas fort assuré. » En chemin, la vue du Saint-Onufre, peint sur la maison qui porte actuellement le numéro 17 de la Marienplatz, m'assura que je vivrais au moins jusqu'au lendemain, car cette image a la propriété d'accorder un jour de vie à qui la regarde. Il est vrai que pour moi, cette vue n'avait que peu d'utilité. Je possède l'ironique certitude de survivre. Et les juges me remirent en liberté, et durant 8 jours, je me promenais dans Munich. « Mais vous étiez bien jeune, alors articulai-je pour dire quelque chose. Bien jeune !» Il répondit sur un ton d'indifférence. « Oui, plus jeune de près de 2 siècles. Mais sauf le costume, j'avais le même aspect qu'aujourd'hui. Bon, ce n'était d'ailleurs pas ma première visite à Munich. J'étais venu en 1334 et je me souviens toujours de 2 cortèges que j'y rencontrais. Le premier était composé d'archers promenant une ribaude qui faisait vaillant tête aux huées populaires et portait royalement sa couronne de paille, diadème infamant au sommet duquel tintinabulait une clochette de longues tresses de paille et descendait jusqu'au jarret de la belle-fille. Ses mains enchaînées étaient croisées sur son ventre, qui avançait vénérieusement, selon la mode d'une époque où la beauté des femmes consistait à paraître enceinte. C'est d'ailleurs leur seule beauté. Et le second cortège était celui d'un juif, comme on est pendre. Avec la foule hurlante et saoule de bière, je marchais jusqu'aux potences. Le juif avait la tête prise dans un masque de fer peint en rouge. Ce masque dissimulait une figure diabolique, dont les oreilles avaient à vrai dire la forme des corneilles, qui sont les oreilles d'âne dont on coiffe les méchants enfants. Le nez s'allongeait en pointe, et pesant, forçait le malheureux à marcher courbé. Une langue immense, plate, étroite et roulée, complétait ce jouet incommode. Nulle femme n'avait pitié du juif. Aucune n'eut l'idée d'essuyer sa face souriante sous le masque, comme cet inconnu qui essuya le visage de Jésus avec le linge appelé Sainte Véronique. Ayant remarqué qu'un valet du cortège menait 2 gros chiens en laisse, la plèbe exigea qu'on les pendît aux côtés du juif. Je trouvais que c'était un double sacrilège au point de vue de la religion de ces gens-là, qui firent du juif une sorte de Christ navrant, et au point de vue de l'humanité, car je déteste les animaux, monsieur, et ne supporte pas qu'on les traite en hommes. « Ah, vous êtes israélite, n'est-ce pas ?» dis-je simplement. Il répondit: Je suis le juif errant. Vous l'avez sans doute déjà deviné. Je suis l'éternel juif. C'est ainsi que m'appellent les Allemands. Je suis Isaac Lekonem. Je lui donnai ma carte en lui disant: Ah, vous étiez à Paris l'an dernier, en avril, n'est-ce pas? Et vous avez écrit à la craie votre nom sur un mur de la rue de Bretagne. Je me souviens de l'avoir lu un jour que sur l'impérial d'un omnibus, je me rendais à la Bastille. Il dit que c'était vrai et je continuai. On vous attribue souvent le nom d'Ahasvérus. Oh mon Dieu, ces noms m'appartiennent et bien d'autres encore. La complainte que l'on chanta après ma visite à Bruxelles me nomme Isaac Lakedem, d'après Philippe Mouske, qui en 1243 vit en rime flamande mon histoire. Le chroniqueur anglais, Mathieu de Paris, qui la tenait du patriarche arménien, l'avait déjà raconté. Et depuis, les poètes et les chroniqueurs ont souvent rapporté mes passages sous le nom d'Ahasver, Ahasverus ou Ahasver dans telle ou telle ville. Les Italiens me nomment Boutadio, en latin Boutadeus. Les Bretons Boudedeo. Les Espagnols Juan Esperandiros. Mais je préfère le nom d'Isaac Lakedem, sous lequel on m'a souvent vu en Hollande. Des auteurs prétendent que j'étais portier chez Ponce Pilate et que mon nom était Cartaphilos. D'autres me voient moi qu'un savetier, et la ville de Berne s'honore de conserver une paire de bottes qu'on prétend faite par moi et que j'aurais laissée après mon passage. Mais je ne dirai rien sur mon identité, sinon que Jésus m'ordonna de marcher jusqu'à son retour. Je n'ai pas lu les œuvres que j'ai inspirées, mais j'en connais le nom des auteurs. Ce sont Goethe, Schubert, Schlegel, Schreiber, von Schenk, Pfizer, Müller, Lenau, Zieditz, Mosens, Kohler, Klingemann, Levin, Schücking, Andersen, Heller, Heng, Hammerling, Robert Gizek et Carmen Silva, Elig Neubauer, Paulus Kassel, Edgar Quinet, Eugène Sue, Gaston Paris, Jean Richepin, Jules Jouy, l'anglais Conway et les Pragois Max Holzhofer et Schommel. Et il est juste d'ajouter que tous ces auteurs se sont aidés du petit livre de colportage qui parut à Leyde en 1602. Fut aussitôt traduit en latin, français et hollandais, et fut rajeuni et augmenté par Simrock dans ses livres populaires allemands. Mais regardez, voici le ring ou place de grève. Cette église contient la tombe de l'astronome Tycho Brahe. Jean-Hus y prêcha, et ses murailles gardent les marques des boulets des guerres de 30 ans et de 7 ans. Nous nous tûmes. Visitâmes l'église, puis allâmes entendre tinter l'heure à l'horloge de l'hôtel de ville. La mort, tirant la corde, sonnait en hochant la tête. D'autres statuettes remuaient, tandis que le coq battait des ailes, et que devant une fenêtre ouverte, les 12 apôtres passaient en jetant un coup d'œil impassible sur la rue. Et après avoir visité la désolante prison appelée Schwinska, nous traversâmes le quartier juif aux étalages de vieux habits, de ferrailles et d'autres choses sans nom. Des bouchers dépeçaient des veaux. Des femmes bottées se hâtaient. Des juifs en deuil passaient, reconnaissables à leurs habits déchirés. Les enfants s'apostrophaient en tchèque ou en jargon hébraïque. Nous visitâmes, tête couverte, l'antique synagogue où les femmes n'entrent point pendant les cérémonies mais regardent par une lucarne. Cette synagogue a l'air d'une tombe où dort voilé le vieux rouleau de parchemin qui est une admirable Torah. Ensuite, l'Académ lut à l'horloge de l'hôtel de ville juif qu'il était 3 heures. Cette horloge porte des chiffres hébreux ses aiguilles marchent à rebours. Nous passâmes la Moldau sur la Karlsbrücke, pont d'où Saint Jean Nepomucène, martyr du secret de la confession, fut jeté dans la rivière. De ce pont orné de statues pieuses, on a le spectacle magnifique de la Moldau et de toute la ville de Prague avec ses églises et ses couvents. En face de nous se dressait la colline du Hradschin. Pendant que nous montions entre les palais, nous parlâmes. « Mais je croyais, dis-je, que vous n'existiez pas. Votre légende, me semblait-il, symbolisait votre race errante. J'aime les Juifs, monsieur. Il s'agit agréablement, il en est de malheureux. Ainsi, c'est vrai, Jésus vous chassa ?»« C'est vrai, mais ne parlons pas de cela. » Je suis accoutumé à ma vie sans fin et sans repos, car je ne dors pas, je marche sans cesse, et marcherai encore pendant que se manifesteront les 15 signes du jugement dernier. Mais je ne parcours pas un chemin de la croix, mes routes sont heureuses. Témoin immortel et unique de la présence du Christ sur la terre, j'atteste aux hommes la réalité du drame divin et rédempteur qui se dénoie sur le Golgotha. Quelle gloire! Quelle joie! Mais je suis aussi depuis 19 siècles le spectateur de l'humanité, qui me procure de merveilleux divertissements. Mon péché, monsieur, fut un péché de génie. Il y a bien longtemps que j'ai cessé de m'en repentir. Il se tut. Nous visitâmes le château royal de Hradschin, aux salles majestueuses et désolées, puis la cathédrale où sont les tombes royales et la châsse d'argent de Saint-Nepomucène. Dans la chapelle où l'on couronnait les rois de Bohême et où le Saint-Roi Venceslas subit le martyr, l'Académie me fit remarquer que les murailles étaient de gemmes, agates et améthystes. Il m'indiqua une améthyste. Voyez au centre les vénures, dessinent une face aux yeux flamboyants et fous. Bien, on prétend que c'est le masque de Napoléon. Mais c'est bon visage, m'écriai-je, avec mes yeux sombres et jaloux. Et c'est vrai, il est là, mon portrait douloureux, près de la porte de bronze où pend l'anneau que tenait soin Venceslas quand il fut massacré. Nous dûmes sortir. J'étais pâle et malheureux de m'être vu fou, moi qui crains tant de le devenir. L'Académie pitoyable me consola et me dit « Ne visitons plus de monuments, marchons dans les rues. Regardez bien Prague. Humboldt affirme qu'elle est parmi les 5 villes les plus intéressantes d'Europe. » Ah, vous lisez donc ? Oh, parfois de bons livres en marchant. Alors riez. J'aime aussi parfois en marchant. Quoi, vous aimez et n'êtes jamais jaloux? Mes amours d'un instant valent des amours d'un siècle. Mais par bonheur, personne ne me suit, et je n'ai pas le temps de prendre cette habitude d'où s'engendre la jalousie. Alors riez, ne craignez ni l'avenir ni la mort. On n'est jamais sûr de mourir. Croyez-vous donc que je sois seul à n'être pas mort? Mais souvenez-vous d'Énoch, d'Élie, d'Empédocle, d'Apollonius de Tyanes. N'y a-t-il plus personne au monde pour croire que Napoléon vive encore? Et ce malheureux roi de Bavière, Louis III? Demandez aux Bavarois. Tous affirmeront que le roi magnifique et fou vit encore. Vous-même, vous mourrez peut-être pas. La nuit descendait et les lumières naissaient sur la ville. Nous repassâmes la Moldau par un pont plus moderne. « Il est l'heure de dîner, » dit l'Académie. « La marche excite l'appétit et je suis un gros mangeur. » Nous entrâmes dans une auberge où l'on faisait de la musique. Il y avait là un violoniste, un homme qui tenait le tambour, la grosse caisse et le triangle, un troisième qui touchait une sorte d'harmonium à deux petits claviers juxtaposés et placé sur soufflet. Ces trois messieurs faisaient un bruit du diable et accompagnaient fort bien le goulash au paprika les pommes de terre sautées mêlées des grains de cumin, le pain aux graines de pavot et la bière amère de Pilsen qu'on nous servit. Jacques Deb mangea debout en se promenant dans la salle. Les musiciens jouaient, puis quêtaient. Pendant ce temps, la salle s'emplissait des voix gutturales de ses hôtes, tous bohémiens, à tête en boule, à face ronde, au nez en l'air. L'Académ parla délibérément. Je vis qu'il m'indiquait. On me regarda et quelqu'un va me serrer la main en disant « Vive la France !» La musique joua la Marseillaise. Petit à petit, l'auberge s'emplit. Il y avait là aussi des femmes. Alors on dansa. L'Académ saisit la jolie fille de l'hôte et les voir me fut un ravissement. Tous deux dansaient comme des anges, selon ce qu'en dit le Talmud, qui appelle les anges maîtres de danse. Soudain, il empoigna sa danseuse, la souleva et bâilla ainsi aux applaudissements de tous. Quand la fille fut de nouveau sur ses pieds, elle était sérieuse et quasi pâmée. L'Académ lui donna un baiser qui claqua juvénilement. Il voulut payer son écho, dont le montant était d'un florin. À cet effet, il tira sa bourse, sœur de celle de Fortunatus, et jamais vide des 5 sous légendaires. Nous sortîmes de l'auberge et traversâmes la grande place rectangulaire nommée Fenzelsplatz, Wiegmark, Rosenmark ou Vaclavesnamesti. Il était 10 heures. À la lueur des réverbères, rôdaient des femmes qui, au passage, nous murmuraient des mots tchèques d'invite. L'Académ m'entraîna dans la ville juive en disant « Vous allez voir pour la nuit, chaque maison s'est transformée en lupanar. » C'était vrai. À chaque porte se tenait, debout ou assise, tête couverte d'un châle, une matrone marmonnant l'appel à l'amour nocturne. Tout d'un coup, l'Académ dit « Voulez-vous venir au quartier des vignobles royaux ? On y trouve des fillettes de 14 à 15 ans que les philopèdes eux-mêmes trouveraient de leur goût. » Je déclinais cette offre tentante. Dans une maison proche, nous bûmes du vin de Hongrie avec des femmes en peignoir, allemandes, hongroises ou bohémiennes. La fête devint crapuleuse, mais je ne m'en mêlais pas. L'Académ méprisa ma réserve. Il entreprit une hongroise tétonnière et fessue, et bientôt débraillée, il entraîna la fille qui avait peur du vieillard. Son sexe circoncis évoquait un trou noueux où ce poteau de couleur des peaux rouges, bariolé de terre de sienne, d'écarlate et de violet sombre des ciels d'orage. Au bout d'un quart d'heure, ils revinrent. La fille lasse, amoureuse, mais effrayée, criait en allemand « Il a marché tout le temps ! Il a marché tout le temps !» L'Académ riait, nous payâmes et partîmes. J'ai été fort content de cette fille et je suis vraiment satisfait. Me souviens de pareille jouissance qu'à Forlì en 1267, où j'ai eu une pucelle. Oh, je suis heureux aussi à Vienne, à Sienne, je ne sais plus en quelle année du XIVe siècle, auprès d'une fornarine mariée dont les cheveux avaient la couleur des pains dorés. En 1542, à Hambourg, je fus si épris que j'allais dans une église, pieds nus, supplier Dieu vainement de me pardonner et de me permettre de m'arrêter. Et ce jour-là, pendant le sermon, je fus reconnu et accosté par l'étudiant Paulus von Alsen, qui devint évêque de Schleswig. Il raconta son aventure à son compagnon Chrysostome d'Andalus, qui la prima en 1564. « Et vous vivez, dis-je. Oui, je vis une vie quasi divine, pareil à Votan, jamais triste. Mais je le sens, il faut que je parte. J'en ai assez de Prague. Vous tombez de sommeil, allez dormir, adieu. » Je pris sa longue main sèche. Adieu, juif errant, voyageur heureux et sans but. Votre optimiste n'est pas médiocre. Et qu'il soit fou, c'est qu'il vous présente comme un aventurier âme et hanté de remords. De remords, pourquoi? Gardez la paix de l'âme et soyez méchants. Les bons vous en sauront gré. Le Christ, je l'ai bafoué. Il m'a fait surhumain. Adieu. Je suivis des yeux, tandis qu'il s'éloignait dans la nuit froide, les jeux de son ombre, simple, double ou triple, selon les lueurs des réverbères. Soudain, il agita les bras, poussa un cri lamentable de bête blessée et s'abattit sur le sol. Je me précipitai en criant, je m'agenouillai et déboutonnai sa chemise. Il tourna vers moi, des yeux égarés, et parla confusément. « Merci, oh, le temps est venu. Tous les 90 ou 100 ans, un mal terrible me frappe. Mais je me guéris et possède alors les forces nécessaires pour un nouveau siècle de vie. » Et il se lamenta, disant « Oi, oi !» ce qui signifie « hélas » en hébreu. Durant ce temps, toute la puterie du quartier juif, attirée par les cris, était descendue dans la rue. La police accourut. Il y eut aussi des hommes, à peine vêtus, qui s'étaient levés en hâte de leur lit. Des têtes paraissaient aux fenêtres. Je m'écartai et regardai s'éloigner le cortège des agents de police, emportant l'Akedem, suivi de la foule des hommes sans chapeau et des filles en peignoir blanc empesé. Bientôt, il ne resta dans la rue qu'un vieux juif aux yeux de prophète. Il me regarda avec défiance et murmura en allemand « C'est un juif, il va mourir !» Et je vis qu'avant d'entrer dans sa maison, il ouvrait son manteau et déchirait sa chemise diagonalement.